au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Mercredi 19 novembre, j'espère que vous avez passé une belle journée à l'émission aujourd'hui avec Pierre Paquette, jour 2 de cette crise au Parti libéral du Québec. On aura aussi l'occasion de parler de panier de Noël pour les familles défavorisées dans l'Assomption-Saint-Sulpice avec l'animateur Stéphane Bellavance et la policière Sophie Légaré. La docteure Lynn Couture sera avec nous, présidente de l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides Lanaudière. On va parler de dizaines de départ possible de médecins à court et moyen terme. Aussi, le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, qui vient tout juste d'être reporté à la préfecture de la MRC de Joliette. Mais tout d'abord, résumé de cette deuxième journée de crise au Parti libéral du Québec avec Pierre Jubinville. Quelle histoire! C'est un roman savon ou presque.
Absolument. Il s'est dit beaucoup de choses, mais on n'est pas au courant de grand-chose, finalement.
Ouais, ouais, ouais.
C'est un peu le résumé de la journée.
Parce qu'il y a eu point de presse, il faut le dire, du chef Pablo Rodriguez.
Ouais, il a abordé trois points avant d'être bombardé par les journalistes. D'abord, Marois Risky ne l'a pas informé sur la raison du congédiement de sa chef de cabinet, Geneviève Hinze, qui, elle non plus, n'est pas au courant des raisons de son congédiement. Alors, difficile à concevoir, mais c'est lui qui l'affirme. Finalement, personne ne sait rien. Il a aussi affirmé, dans son deuxième point, que 100% de ses dépenses sont payées par le parti et que tout ça est vérifiable. Et en troisième, pour ce qui est des fameux textos échangés sur un présumé système de récompense pour le faire élire.
Ça, faut rappeler que c'est paru ce matin dans le Journal de Montréal, un échange de textos, semble-t-il, entre une députée libérale et une députée caquiste. C'est ça qui nous mêle complètement.
Les deux ont nié aussi.
C'est ça. Et c'était écrit là, dans un français, ma foi, très pitoyable. Ça ressemblait plutôt à du chiac, là.
Oui, un petit peu, hein.
Oui, oui.
Pablo Rodriguez, là-dessus, a dit qu'il a été mis au courant de l'existence de ces courriels qui, à ce soir.
Ces textos, oui.
Mais pourtant, il y a une petite nuance. Le président du parti qui l'accompagnait lors de la conférence de presse, Raphaël Ferraro, est venu dire qu'il avait été mis au fait de certaines allégations en avril, donc avant l'élection de Pablo Rodriguez. Alors,
là, il n'y a toujours pas eu de... on n'a pas de nouvelles de Marois Risky. Elle ne s'est pas adressée aux médias encore. Silence total du côté de Marois Risky.
Ça devrait être à son tour dans les prochains jours parce que Pablo Rodriguez insiste. Il lui dit « J'ai rien à cacher. C'est à elle de nous dire ce qu'elle sait. » Alors, on en est rendu là.
Ou il y a quelqu'un qui a menti quelque part, ou tout le monde a menti. C'est complètement fou.
Puis, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'elle s'est présentée dans les bureaux de Rodriguez avec son avocat.
Oui.
Il y a sûrement quelque chose.
Hier, ça, c'était hier. Il y a Anguille sous roche, ça, c'est clair. Comment le Parti libéral fera-t-il pour se sortir de ce bourbier? Parce que là, on est à peu près 11 mois des prochaines élections.
Oui, et Pablo Rodriguez a dit, je vous confie ça à une enquête externe, mais une enquête externe, ça prend du temps avant d'avoir les résultats, et je pense que les gens veulent savoir ce qui s'est passé tout de suite.
Tout de suite. Ouais. Et chose certaine, c'est que ça risque de pas faire de bien au Parti libéral dans les sondages, et soyez-en convaincus, mesdames et messieurs, il y aura des sondages, il y aura un sondage ou deux ou trois même à venir dans les prochains jours.
Ouais. Donc, Claude, le flou persiste.
Oui. On va se reparler tout à l'heure, Pierre Jubinville, le plus de détails aux infos à 16h30.
Lanaudière PM, affaires municipales.
Le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, est reporté à la préfecture de la MRC de Joliette et ses pairs l'ont réélu à ce poste alors que se tenait hier le premier conseil des maires de la MRC de Joliette depuis l'élection du 2 novembre dernier. Et même s'il s'agit d'un deuxième mandat, Pierre-Luc Bellerose a affirmé à François Morin que ce ne sont pas les défis là, qui manquent pour lui. Là.
Oui, c'est un défi qui se poursuit. J'avais déjà 2 ans à mon actif là maintenant. Ce sont des mandats de 4 ans, donc c'est beaucoup plus facile d'avoir une prévisibilité puis de se préparer pour la suite des choses. Puis je vais être épaulé par mon nouveau collègue de Saint-Charles-Borromée, Alexis, Donc, je suis très enthousiaste pour la suite des choses. On a six nouveaux élus aussi là, au sein du Conseil des maires. Donc ça, je pense que c'est une belle opportunité, mais c'est un défi aussi dans la première année là, que les gens s'approprient les dossiers, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses sur la planche à dessin, que ce soit au niveau de la relocalisation et puis l'innovation, ou je dirais même nouveau bâtiment de notre siège social, la réintégration de la CDEJ. On a le dossier du site d'enfouissement aussi, qui fait couler beaucoup d'encre. On a le transport, donc quand même beaucoup de choses là sur lesquelles on doit accorder une attention particulière. Puis c'est la MRC, là, c'est un budget de plus de 32 millions de dollars avec 100 employés, donc on a souvent tendance peut-être à minimiser l'importance de la MRC, mais c'est le schéma d'aménagement, le schéma couverture de risque. C'est un lieu très important là pour la collaboration intermunicipale. Donc, c'est un défi qui occupe beaucoup de mon temps aussi là dans ma vie de maire. Là.
Concernant le fameux schéma de couverture de risque ou le schéma d'aménagement plutôt, c'est toujours un dossier là, quand même qui est préoccupant parce que beaucoup de contraintes qui sont imposées aux MRC, aux municipalités par le gouvernement du Québec, ça devient. Est-ce que le schéma d'aménagement là vient à échéance? On doit le renouveler bientôt?
Oui, puis ça doit se faire dans un laps de temps assez court. On le sait que les anciennes générations de schémas, parfois, ça pouvait prendre des dizaines d'années avant de se conclure. Donc, on parle beaucoup plus de 3 à 4 ans. Fait que ça, on doit compter aussi sur l'expertise, puis le dynamisme de nos équipes administratives avec, bien entendu, aussi la collaboration des différentes villes. Donc, ça, c'est un autre rôle important là, pour le préfet, pour l'équipe là, du Conseil des maires, de s'assurer justement des suivis puis de la diligence là, des processus des équipes. Donc oui, effectivement, ça c'est un autre enjeu important. Puis on le sait, souvent là, les gens ont des appréhensions, beaucoup de questionnements, notamment tout ce qui touche la densification. Et vous l'avez énoncé, ce sont des orientations gouvernementales qui doivent être respectées là, par nos instances, que sont les MRC ou les villes. Donc nous aussi, on a des contraintes là, réglementaires.
Je parlais la semaine dernière avec le recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Christian Blanchette, qui me parlait de l'Observatoire des régions. C'est un organisme, en fait, ce sont des professeurs, des scientifiques qui peuvent venir en aide aux MRC, qui appuient les MRC dans leur travail. Est-ce qu'on a déjà fait appel ou on va faire appel à cet observatoire-là?
Pour l'instant, on n'a pas fait appel, mais c'est quelque chose là qui, effectivement, qui peut être regardé du côté du Conseil des maires. Je vous disais qu'hier, c'était une prise de contact, c'était que les élus puissent se familiariser avec la structure, parce que 6 nouveaux maires, dont quelques-uns qui n'étaient pas non plus au sein de conseils municipaux. Donc, c'est vraiment une adaptation importante là, quand vous devenez maire sans être passé par le poste de conseiller ou sans avoir été au conseil, devenir maire, là, par la suite siéger au conseil des maires de la MRC, c'est quand même là, des étapes là, qui sont importantes. Puis c'est une structure, je l'ai dit, qui est assez complexe. Puis de plus en plus, le gouvernement nous délègue des responsabilités. Donc, c'était là, l'introduction hier. On va reparler plus en détail des différents enjeux, des décisions qui sont à prendre, mais hier, c'est ça, c'était la présentation, puis il y avait aussi des dossiers importants qui devaient être résolus à court terme, notamment, je l'expliquais plus tôt, là, la construction d'un nouveau siège social suite à la démolition là, du site actuel là, qui était vraiment dans un état de désuétude avancée. Donc ça faisait partie des premières priorités pour pouvoir là, localiser notre équipe administrative rapidement. Donc tous les autres dossiers vont être travaillés en profondeur dans les semaines à venir. Puis on est aussi au moment d'adopter le budget, là, tout comme les villes, la MRC a un budget à adopter. Donc il y avait beaucoup de contenu là pour la rencontre numéro 1. Là.
Et sans doute beaucoup de pain sur la planche là pour les prochaines rencontres de ce conseil des maires de la MRC de Joliette. Pierre-Luc Bellerose, donc maire de Joliette, qui est reporté à la préfecture de la MRC de Joliette. Il est 16h16. Dans un moment avec nous, la docteure Lynn Couture, présidente de l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides, Lanaudière. Il y a des dizaines de départs de médecins qui sont à prévoir à court et à moyen terme.
Pour vendre votre propriété, 450-935-3228. Avec l'équipe Paradis, c'est simplement efficace. Courtier immobilier, Proprio Direct.
La clinique podiatrique de Joliette vous informe.
Vous souffrez d'une fasciite plantaire, d'un oignon, d'une verrue, d'une infection ou d'une fracture? Venez rencontrer mon équipe à la clinique podiatrique de Joliette au 222 de la Visitation à Saint-Charles-Bromé. Nous offrons une gamme complète de services podiatriques tels que soins des pieds, orthèse plantaire, injection de cortisone, chirurgie mineure, radiographie ainsi que la podiatrie sportive. Renseignez-vous au 450-398-PIED, 398-7433, podiatrejoliette.com.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Wouhou! J'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus. Il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
Si vous voulez partir, partez, on va barrer les portes.
Salut, c'est la bottine souriante.
Si comme nous, vous êtes du monde de party et que vous voulez un retour bien accordé, n'oubliez pas d'appeler l'Opération Les Rouges au 1-866-DESJARDINS.
Et si vous aimez autant veiller tard que veiller sur le monde, ben on est toujours à recherche de bénévoles.
Si vous voulez partir, Les Rouges vous ramène à la porte.
Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station.
Le samedi 29 novembre, au Crapaud à Saint-Félix-de-Valois, Sabin Jacques et Rachel Aucoin présentent un spectacle en hommage au compositeur et accordéoniste Philippe Bruneau. Les billets sont disponibles en ligne à crapaud.qc.ca.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Sainte-Béatrix, Saint-Ignace-de-Loyola, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Michel-des-Saints.
CFNJ, 99.1, 88.9. La Naudière PM. Santé.
Il est 16h18. La menace de départ de médecins de famille lanaudois est bien réelle. Il y a un sondage qui a été mené par l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides, Lanaudière, qui laisse entrevoir là, des dizaines de départs à court ou à moyen terme. Une tendance là, qui risque de s'accentuer. Et François Morin en a discuté avec la présidente de cette Association des médecins omnipraticiens Laurentides, Lanaudière, la docteure Lynn Couture.
On a quand même la moitié des membres qui ont répondu à un sondage. Donc, on a un taux de réponse qui est extraordinaire là, pour un sondage. Là. Moi, j'ai à peu près un peu plus de 1100 membres et puis j'ai plus de 550 réponses, là, 558. Alors, je pense que c'est très significatif. Et de ça, ce qu'on voit, c'est qu'on sait que tu sais, normalement, bon an, mal an, il y a une centaine de médecins qui vont penser soit changer leur pratique, prendre leur retraite. C'est normal. Ça, c'est le mouvement normal. Puis là, je vous parle de Laurentides, Lanaudière. Donc, c'est un mouvement qui peut être normal. Mais là, depuis la loi 2, il s'est ajouté 308 nouvelles interrogations. Là. Alors là, c'est ça a changé. On a multiplié par 3 là, les gens qui se questionnent. Et de ça, ben il y a des gens qui ont pris des gestes concrets, qui ont commencé à faire des gestes concrets là pour au collège des médecins, au collège de d'autres, au collège des médecins de d'autres provinces, qui ont regardé pour qui prennent action aussi auprès de la RAMQ, dire qu'ils vont quitter. Donc il y a actuellement des gens qui se préparent.
Et en bout de ligne, si on fait un calcul rapide, quand on regarde que les médecins prennent en charge en moyenne d'un millier de patients, là, il y a beaucoup de monde dans la région qui risque d'être privé bientôt.
Absolument. Absolument. Puis là, tu sais, on parlait du court terme, là. Alors, tu sais, on parle de probablement là, 27 000 patients là, qui vont se retrouver sur la paille à court terme. Quand je dis court terme, là, c'est dans les prochains mois. Parce que je pense, vous savez, les gens espèrent encore. Les médecins, là, ils veulent rester pour leur population. Ils ont des patients, ils sont attachés, ils veulent donner des services. Vous savez, On fait pas des études en médecine pour rester chez nous, là. On fait ça pour soigner la population. C'est ça notre passion, c'est ça qu'on veut faire. Alors, les gens sont pas prêts encore à dire, bon, ben nous, on va fermer. En tout cas, la plupart des cliniques le font pas encore à visage découvert. Parce qu'ils se disent, ça se peut pas que le gouvernement allume pas à un moment donné puis qu'il change pas la loi 2. Voyons donc, c'est tellement gros ce qui est en train de se passer que ça n'a pas d'allure. Tu sais, les gens ont encore confiance qu'il va arriver quelque chose. Quand le 1er janvier va arriver puis que les premières coupures vont arriver, vous allez voir que malheureusement, l'exode risque de s'accélérer.
Quel message? Je vous ai déjà posé la question, mais là, il y a un message qui doit encore être lancé là, aux patients.
Bien, écoutez, ce que je vous dis, moi, c'est on ne veut pas faire ça. Ce n'est pas l'objectif et je ne suis certainement pas en train d'encourager les médecins à arrêter de travailler. Bien au contraire. Mais là, dans les conditions actuelles, les mathématiques n'arrivent plus pour que les cliniques survivent. Puis malheureusement, il y a beaucoup de désinformation du gouvernement là, qui dit, ben oui, on paye les frais de clinique. Que nenni, ce n'est pas vrai. Oui, il y a pour les gens qui sont en GMF une subvention. Subvention qui va chercher peut-être 30, peut-être 40%, peut-être un peu plus, mais on est loin là, on est loin du compte là pour la survie d'une clinique. Donc, les médecins doivent défrayer la plus grande proportion des coûts d'opération d'une clinique, que ce soit l'ordinateur, le logement, les compresses qu'on utilise, le fil, tout ça est payé par les médecins de façon très, très, très majoritaire. Et là, en baissant la rémunération associée à l'acte, parce que là, écoutez, c'est majeur, là. Voir un patient globalement actuellement, là, ça va couper là littéralement plus qu'en deux. Alors, mais retenons que ça coupe à peu près en deux. Alors, vous comprendrez que ça va être très difficile de continuer à payer pour ces frais-là. En tout cas, c'est ce que les cliniques me disent et c'est ce que moi je vis personnellement dans ma clinique. Puis c'est pas parce que nous, on va tous prendre une baisse le 1er janvier de 13,04% qu'on va baisser nos frais de bureau, parce que nos secrétaires, notre pied carré, il baissera pas, lui.
Qu'est-ce qu'on dit en terminant François Legault qui affirme que la loi 2 est là pour rester et qu'on ouvre la porte quand même à poursuivre les pourparlers?
Bien écoutez, cette loi-là, avec ce qui est écrit dedans, n'a pas d'allure. Ce qu'on est en train de faire, ce qu'il disait vouloir faire avec cette loi-là, c'était de donner plus d'accès. Or, ce que c'est en train de faire, c'est de réduire l'accès à un médecin de famille. Puis, écoutez, là, il y a une clinique dans sa propre circonscription à M. Legault là, qui me dit qu'il va fermer. Là. Fait que je l'invite à écouter ses propres gens, ses propres cliniques, ses propres médecins sur son terrain. Là. Alors ça, je lui dirais de certainement l'écouter. Alors, sa loi 2, elle va faire le contraire de son soi-disant objectif. C'est sûr que le fait d'écrire sur un papier, voici monsieur, vous avez un médecin à telle clinique, mais si la clinique est fermée, si les médecins sont partis, ils n'auront pas d'accès. Alors là, nous, depuis le départ, on dit, il faut qu'on soit capable de donner les services de façon différente. Puis, vous savez, il y a des choses avec lesquelles on est prêt à s'entendre déjà. Hein? Tu sais, la capitation, on est d'accord, mais pas collectif. Tu sais, déjà, les médecins sont prêts à regarder ça. Le travail interdisciplinaire, ça fait longtemps qu'on en fait, qu'on en fasse plus, qu'on ait des équipes autour du médecin. On est prêt à ça, ça va multiplier l'efficacité. Il n'y en a pas de problème. Tout qu'on dit, on a des solutions, là. Le gap, on n'a pas le choix. Actuellement, il faut le garder. C'est pas parfait, mais ça arrive à donner des services à 91% de la population dans la Naudière actuellement. Alors, changeons le discours. Essayons de recréer de la confiance. Puis là, je vous cacherai pas qu'on part de loin. Mais il faut qu'on fasse ça. Mais ça peut pas passer sans une suspension de la loi 2. Puis pour l'argent, écoutez, allons en arbitrage. Parce que quand on dit qu'on gagne plus que l'Ontario, si c'était vraiment le cas, ben on est prêt à aller en arbitrage là. Puis on voit pas pourquoi les médecins vont vers l'Ontario puis qu'il y a pas d'Ontariens qui vont beaucoup chez nous.
Voilà, c'était la présidente de l'Association des médecins omnipraticiens, Laurentie-Lanaudière, la docteure Lynn Couture. Là. Je rappelle qu'il y a un sondage qui a été mené par l'Association des médecins omnipraticiens, Laurentie-Lanaudière, là, qui laisse entrevoir là, des dizaines de départs à court terme ou encore moyen terme, là, tendance qui risque de s'accentuer. Il est 16h25. Tiens, on va parler un peu de boissons. Il y a des négociations sur le commerce entre les provinces qui se déroulent ces jours-ci, là, avec notamment l'intention de permettre l'achat direct d'alcool des producteurs d'autres provinces d'ici le mois de mai prochain. Ce que ça veut dire, c'est que les Québécois pourraient se faire livrer à domicile des vins et des spiritueux qui sont produits dans d'autres provinces et des Canadiens qui pourraient aussi faire de même avec des produits québécois. Par exemple, on produit de très bons alcools dans la région de la Naudière. On a d'excellentes distilleries. Ben, les Canadiens pourraient facilement se commander des alcools provenant de ces distilleries de la région de la Naudière. Il y a le ministre délégué à l'économie aux petites et moyennes entreprises, Samuel Poulain, qui reconnaît quand même qu'il pourrait y avoir un montant à payer là, à la SAQ. Il prévoit organiser des missions économiques dans d'autres provinces là, avec des producteurs québécois.
Oui, il pourrait y avoir une majoration SAQ si quelqu'un, par exemple, achète de l'alcool directement d'un producteur, alors que ce soit un producteur de la Colombie-Britannique ou de l'Ontario, ce serait quelque chose de possible. Maintenant, quel est le coût, quel est le plafond, comment on l'organise, ça fait partie de nos discussions.
Voilà, il est 16h26.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Métropolitaine pour Charles de Gaulle, c'est assez lourd depuis avant Bourget et Salle-Demeure jusqu'à l'approche du boulevard Henri-Bourassa. Pour la suite des choses, là, c'est quand même assez facile pour atteindre la rivière des Prairies et la franchir. Repentigny, oh, c'est problématique, là, 40 en direction est, c'est lent depuis un peu avant Brien, et ce jusqu'à, oh, je vous dirais à peu près 500 mètres passé Valmont. Est-ce que j'ai des détails de ce côté-là? Qu'est-ce qui se passe du côté de Repentigny? Est-ce que je l'ai? Non, j'ai pas d'informations. Si jamais vous voyez quelque chose de votre côté, là, vous pouvez nous passer un coup de fil. 450-404-CFNJ. Pont-le-Gardeur, approche facile autant par Sherbrooke que par Notre-Dame, traversée facile vers la rive nord. La 25 Nord, oui, voilà. Pour le pont payant de la 25, là, c'est lent depuis Henri Bourassa et ça jusqu'au boulevard Lévesque de l'autre côté en arrivant sur Laval. Puis c'est pas mieux du côté de Laval. Depuis la jonction avec la 440 et ça jusqu'au boulevard des Mille-Îles, là, c'est assez dense. Secteur Terrebonne-Mascouche, par contre, ça roule très bien. Pont Sophie-Masson, un peu lourd à l'approche, environ 500 mètres avant le boulevard des Mille-Îles et on franchit facilement la rivière des Mille-Îles. Finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40. En direction est, c'est lourd depuis à environ, je vous dirais, 500 mètres avant la montée des Pionniers. Les nouvelles avec Pierre Jubinville dans un instant.
Saviez-vous qu'avec Promutuelle Assurance, une soumission en ligne se fait encore plus vite qu'un café latté? Gagnez du temps là, avec notre soumission en ligne rapide. En seulement 4 minutes, vous obtiendrez un prix pour assurer votre auto, maison, condo, appart, moto, motoneige, VR ou tout autre véhicule. Des prix qu'on aime, vite de même, c'est pas étonnant qu'on nous recommande autant. Demandez dès maintenant votre soumission en ligne sur promutuelleassurance.ca/rapide. Les conditions s'appliquent. Promutuelle Assurance et la 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 la.
Si vous avez des idées suicidaires ou que vous connaissez quelqu'un qui pense au suicide et que vous voulez savoir comment en parler, obtenez de l'aide en visitant suicide.ca. Parler, c'est le premier pas pour aller mieux. Un message du gouvernement du Québec.
Hello! Ici Ricky D. Oui! Tous les vendredis, on commence nos fins de semaine ensemble de 13 à 17 heures avec Prélude au week-end au 99.1 88.9 CFNJ et sur l'appli CFNJ. À vendredi, OK? Bye-bye!
Ouais, 16h29, Pierre Jubinville, Pablo Rodriguez, qui a rien à se reprocher, dit-il, mais en fait, le flou persiste au Parti libéral du Québec.
Ouais, c'est une autre journée, une deuxième, sans grande réponse. Il a demandé à la députée Marois Risky d'expliquer pourquoi elle a congédié sa chef de cabinet, Geneviève Hinze. Monsieur Rodriguez, qui s'est entretenu hier soir avec Madame Hinze, affirme qu'il n'a rien à cacher. Il prétend qu'il n'a appris qu'hier soir l'existence des fameux courriels sur un présumé système de récompense.
La chef parlementaire, moi, comme chef du parti, j'ai désigné une chef parlementaire. C'était Mme Risky. Aujourd'hui, c'est M. Fortin. Elle, en sa capacité de chef parlementaire, a renvoyé Mme Hinze sur la base d'informations qu'elle dispose, qu'elle n'a pas partagées avec moi. Elle ne m'a pas informé, elle ne m'a pas questionné, elle ne m'a pas demandé d'informations. Elle l'a renvoyé et remplacé par une personne de confiance à elle, alors c'est quelqu'un qui doit travailler également avec le chef du parti.
Il a réitéré avoir demandé une enquête externe et indépendante et il a défendu son intégrité.
Je ne laisserai jamais personne mettre en doute mon intégrité. J'ai été ministre pendant de nombreuses années, j'ai été député pendant de nombreuses années. Il n'y a jamais personne qui a remis en question mon intégrité. Il n'y a jamais personne non plus ici qui dit que moi j'étais au courant de quoi que ce soit. Là. Il n'y a personne ici qui dit que j'étais au courant parce que je ne l'étais pas et on ne sait même pas encore si ces textos sont vrais ou faux.
Et puisque l'on parle de ces textos, Raphaël Ferraro, qui est le président du Parti libéral, a quand même reconnu que des allégations floues avaient fait surface en avril, mais pas de l'ampleur de ce qui est rapporté aujourd'hui.
Tout ce qui nous avait été rapporté à l'époque, c'était très, très sommaire, très, très vague. Rien à voir avec ce qui est sorti ce matin. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a réagi comme on le fait aujourd'hui. Mais c'est très différent. Puis moi, écoutez, la première fois que j'ai eu connaissance de ce niveau de détails-là puis de documents, c'est tard hier soir. J'avais demandé à les obtenir ou en savoir davantage. Pas eu de suite à ça. Alors, on l'a appris comme tout le monde en le lisant ce matin dans le journal.
L'ex-chef de cabinet de la députée Marois Risky, Geneviève Hens, affirme qu'elle n'a rien à se reprocher, qu'elle a même été surprise par son congédiement. Elle estime qu'elle n'a reçu aucune explication pour expliquer son renvoi et elle entend blanchir sa réputation.
On aura l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure avec Pierre Paquette. Une fin tragique pour un camionneur ce matin du côté de Saint-Côme.
Oui, une triste nouvelle. Ça s'est produit sur le chemin de Sainte-Émilie à Saint-Côme. Avant 8h30. C'est une pelle mécanique qui serait retrouvée sur la chaussée après avoir glissé de la remorque qui la transportait. La camionnette qui circulait en sens inverse a percuté la pelle et a pris feu. Et malheureusement, le conducteur n'a pas été en mesure de sortir de la cabine.
Pierre, les pharmaciens contestent à leur tour la loi 2.
Oui, ils contestent. Ils s'opposent à deux articles de la loi, dont un donnant au ministre de la Santé le pouvoir de modifier une entente en cours. C'est juste que l'accès aux soins pourrait être amélioré. Ils craignent ainsi que le ministre puisse décider d'imposer par décret toute modification touchant notamment leur rémunération. On va écouter le président de l'Association québécoise des pharmaciens, Benoît Morin.
Suite au dépôt de cette loi-là, qui touchait, semble-t-il, juste les docteurs, mais ces deux articles-là parlent des pharmaciens, dentistes et optométristes aussi, bien, on a eu un dépôt à la table de négociation quelques jours après, catastrophique, sur notre rémunération, avec un épée de Damoclès maintenant qui nous dit que le ministre peut décréter que c'est ça qui va rentrer en vigueur dans 60 jours.
Dans le domaine de la justice, maintenant, l'agresseur d'une mineure a été libéré, mais va revenir en cours fin janvier.
Oui, l'homme de Saint-Paul, de 36 ans, reviendra le 29 janvier. Il a été donc libéré moyennant le respect de plusieurs conditions. Il fait face à la justice pour répondre à une dizaine de chefs d'accusation pour des gestes à caractère sexuel, des voies de fait et pour avoir séquestré une personne mineure. Celle-ci est la fille de l'accusé.
L'Ombudsman fédéral réclame des changements pour venir en aide aux victimes de violences sexuelles.
Oui, pour réduire les obstacles auxquels font face les survivantes de violences sexuelles, parmi les recommandations, il demande de réduire au minimum les préjudices causés par le fameux arrêt Jordan. Des procès n'ont pas lieu à cause de la longueur des procédures. Ben oui. On va écouter l'Ombudsman Benjamin Robach.
Une survivante nous a dit: je ne pense pas qu'il est pire pour une victime que de voir son procès abandonné. Derrière chaque statistique, il y a une personne, une vie bouleversée.
C'est fâchant et carrément révoltant. Les histoires d'arrêt Jordan dans des dossiers comme ceux-là de violences sexuelles.
Ouais, surtout des dossiers d'agression sexuelle.
Et en terminant, un petit clin d'œil de Tourisme Lanaudière, c'est très sympathique.
Ouais, qui publie sur les réseaux sociaux une lettre d'excuse qui fait réagir et qui se veut finalement une promotion des attraits de la région. on peut lire que l'organisation s'excuse des effets inattendus que Lanaudière semble provoquer chez certaines personnes. Il paraît que les paysages sont trop beaux pour être vrais.
Ah oui. Oui, particulièrement dans le Nord.
C'est ça. Et les activités trop tentantes pour rester à la maison, causant un certain déséquilibre dans le quotidien.
Merci beaucoup, Pierre Jubinville. Et je vous rappelle qu'on revient dans les prochaines minutes là sur le fameux dossier de la crise au Parti libéral provincial avec Pierre Paquette.
Au 99.1, 88.9, CFNJ. C'est Lanaudière PM avec Claude Fournel. C'est
Lanaudière PM. Communautaire.
Il y a le service de police de l'Assomption qui a lancé aujourd'hui la 12e édition de son projet Arbre de la communauté, initiative là, qui est un appel au public puis aux commerçants qui veulent contribuer à l'achat de cadeaux, de paniers de Noël pour les enfants puis des familles défavorisées. Régent Turgeon a eu l'occasion de rencontrer l'agent de la police de l'Assomption Saint-Sulpice, Sophie Légaré, également l'animateur jeunesse bien connu, Stéphane Bellavant, qui est un gars originaire de l'Assomption.
Une 12e édition, Mme Légaré, de l'Arbre de la communauté. Un projet chouchou, vous l'avez dit tantôt, c'est important.
Oui, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur, celui-là. Il est important parce que ça permet d'offrir une lumière sur, en fait, sur la ville, sur le service de police, sur la communauté surtout, qui vient en aide à sa propre communauté. C'est très important pour nous.
Faut impliquer les gens pour que ce soit un succès. Il y a des façons de s'impliquer. Je veux vous entendre là-dessus.
En fait, on a de l'implication à divers niveaux. Notre communauté est appelée à s'impliquer, en fait, en contribuant, en achetant un cadeau à un enfant qui provient d'une famille qui éprouve des difficultés. Ça peut être des familles qui reviennent chaque année. Ça peut être une année qui est plus difficile. Donc, la communauté s'engage à offrir un présent à l'enfant. Et le service de police s'occupe de faire la livraison en toute confidentialité. Également, là, il y a des offres grâce à nos partenaires financiers ultra importants qui sont fidèles depuis le début. On est en mesure d'offrir aussi des paniers alimentaires, des paniers pharmaceutiques et même là, d'offrir une certaine aide si les gens ont besoin d'habillement pour l'hiver, qui n'ont pas les moyens d'acheter des boîtes pour les enfants.
Et là, la personne qui s'implique, qui veut faire un cadeau, ça se fait dans l'anonymat. Je trouve l'âge et le sexe de l'enfant pour qui je dois acheter un cadeau de 35 à 45 $ cette année et vous faites le suivi.
Exactement. Le citoyen, en fait, la seule information qu'il aura, c'est si le cadeau est destiné à un garçon ou à une fille, l'âge de cet enfant-là et ses intérêts. Donc, ensuite, ce sera les seules choses que la personne saura. Le donateur sera confidentiel. La personne qui reçoit aussi, on garde le nom, les informations confidentielles aussi, pour qu'il n'y ait pas de malaise, pour que tout le monde soit bien dans la situation.
On aide plusieurs enfants à chaque année. Est-ce qu'on a une idée? Il y en a déjà 250 inscrits cette année, mais au fil des ans, comment on pouvait en distribuer de ces cadeaux-là?
On est toujours autour du 250 enfants. On a vu les chiffres augmenter un peu pendant la pandémie. Évidemment, les gens travaillaient moins, avaient moins de possibilité de faire des sous. Donc, mais on est souvent autour du 250, ce qui est relativement une bonne nouvelle.
Vous avez parlé de paniers alimentaires. Ça va être concocté le 13 décembre, si j'en comprends bien. Ça va prendre des familles pour s'impliquer pour aller les faire, les paniers, et les distribuer.
Exactement. Il y a plusieurs familles qui sont toujours présentes, qui sont là pour nous aider très tôt le matin. On fait l'épicerie au IGA de l'Assomption. Les familles des policiers aussi sont présents, viennent s'impliquer. Les policiers viennent avec leurs enfants bénévolement pour monter des paniers. Et évidemment qu'on a notre ambassadeur, là, Stéphane Bellavance, qui sera là aussi avec nous cette année.
Il y a des partenaires commerciaux, vous les avez nommés tantôt, Tim Hortons et compagnie. L'aide de la ville cette année est substantielle aussi.
Oui, c'est très important parce qu'ils nous permettent, en fait, ils permettent aux employés de s'impliquer dans ce programme-là. Et également, les employés sont appelés à pouvoir directement, par leur salaire, faire un don à l'Arbre de la communauté. Et c'est toujours très généreux.
Stéphane Bellavance, fier assomptionniste, animateur bien connu, 3e année d'implication dans l'Arbre de la communauté.
Oui.
À l'évidence, la cause te tient à cœur.
Et de plus en plus, en fait, plus les années passent, plus la cause me tient à cœur. Puis ce qui, au-delà de souligner les gens qui ont besoin, parce que ça, on le sait. Ce qu'on sait moins, c'est qui a besoin. C'est étonnant comment l'image qu'on se fait des gens qui ont besoin d'aide et correspond pas tant à la réalité. J'ai fait des livraisons de paniers d'épicerie l'année passée. Puis je suis arrivé, j'ai livré des paniers dans des maisons qui avaient une entrée avec des voitures, puis des enfants qui vont à l'école. Les gens qui ont besoin sont... C'est plus grand maintenant, puis le casting est beaucoup plus large qu'avant.
On serait surpris de voir qui, effectivement, a des besoins.
Et possiblement que... ça, c'est-tu écrit audio?
Audio, on continue. Okay.
possiblement que si vous écoutez ça présentement, levez les yeux, puis pas loin, pas loin de où est-ce que vous êtes en ce moment, là, peut-être à deux coins de rue, il y a quelqu'un qui va recevoir un panier ou des cadeaux de Noël, et vous seriez surpris de savoir que c'est pas l'itinérant qui couche sur un banc de parc. C'est ultra cliché ce que je fais, que je dis là, mais mais je fais exprès. C'est pas nécessairement, il existe même à l'Assomption, j'en ai rencontré. Mais c'est pas que. Il y a les besoins sont vraiment grands et de plus en plus grands. La situation économique est vraiment tough. T'sais.
Là, on fait pas rien que s'impliquer physiquement. On va vous voir là, le 6 décembre au marché de Noël.
Oui.
On est prêt à rencontrer les gens et vendre ce produit qui est l'arbre de la communauté.
Absolument, parce que je veux que ce projet-là prenne de l'ampleur. L'Assomption est en train de vivre une transformation en ce moment avec tout ce qui se passe. Vous avez vu la passerelle, la place Carl Tremblay. L'Assomption se fait belle. On est très content de ça. Tout le monde est heureux de ça, mais je veux que le projet fasse partie de cette transformation-là. Je veux que le projet grandisse parce qu'il fait partie de l'ADN de l'Assomption, parce qu'il fait partie de ce qu'on est, nous, ici, à l'Assomption. On se laisse pas tomber, on se tient serré. Puis quand je vois ce que les policiers font, je veux dire, dans nos taxes qu'on paye, on paye des salaires de policiers, puis dans ces salaires-là, il y en a deux qui donnent plus de tickets, qui pendant quelques semaines sont à temps plein sur ce projet-là. Puis les semaines qu'on leur donne, c'est la moitié de ce qu'ils auraient besoin. Parce qu'à un moment donné, ils peuvent pas juste faire ça, c'est des policiers. Mais ils pourraient faire trois fois le travail qu'ils font là, puis il y aurait de l'ouvrage en masse, tant les besoins sont grands. Fait que c'est eux qui trouvent les familles qui ont besoin. C'est eux qui emballent les cadeaux. C'est eux qui mettent du crémage, ces biscuits sourire, entre autres. Et c'est eux qui se déplacent dans les commerces de la région pour vendre des boules de Noël pour que les enfants aient des cadeaux. Ils vont être avec moi au marché de Noël. Et c'est ça que je veux qu'il soit mis de l'avant cette année. Je veux que le service rendu soit reconnu. Voilà.
Belle communauté tissée, serrée, celle de l'Assomption Saint-Sulpice. On a entendu l'agent Sophie Légaré et celui qui vient de vous parler, c'est l'animateur Stéphane Bellavance pour cette 12e édition du projet Arbre de la communauté. Il est 16h43 dans un instant. On parle de la crise au Parti libéral avec Pierre Paquette.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Joliette, dépanneur Jean-Louis, dépanneur Filgo, dépanneur Polo, dépanneur Proxy Extra Arnois, Tabagie 636, dépanneur Michel Caram, dépanneur Nico, dépanneur Couchetard, dépanneur Marie, dépanneur Beaussoir Pétro-Canada, épicerie Forêt et pharmacie Nancy Gaudreau, à Saint-Charles-Borromée, dépanneur Couchetard, dépanneur Rapido, dépanneur Bonissoir Shell, dépanneur Saint-Charles, IGA Marché C&C Le Thor, à Saint-Pierre, dépanneur J&G, à Notre-Dame-des-Prairies, dépanneur 350 Bonissoir, dépanneur des Prairies et Marché Philippe, et à Saint-Paul-de-Joliette, dépanneur Bonissoir, dépanneur Proxy Extra et Shell Saint-Paul. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Chez Lustre Auto Saint-Félix de Valois, redonnez de l'éclat à votre voiture. Lavage extérieur pour seulement 20 $ sans rendez-vous. Passez dès maintenant au 4164 rue principale à Saint-Félix de Valois. Lustre Auto, propre, rapide et brillant.
Concours Calendrier de l'Avent.
40 jours pour les 40 ans.
L'indice du jour. Bonheur.
Vous l'attendiez toute l'année et c'est enfin arrivé. Le Vendredi fou chez Ameublement SG Dion, c'est maintenant. C'est le grand événement, celui qu'il ne faut surtout pas manquer. Fauteuil ailerant motorisé, berçant avec ajustement de la tête et du lombaire, le confort suprême à 1099 $. Économisez 600 $. Matelas et lit grand lit avec ressort en sachet à 659 $, taxes incluses. Cuisinière GE auto-nettoyante, 899 $. Lave-vaisselle à 549 $. Économisez 150 $ additionnels pendant la vente du Vendredi fou. Alors, qu'attendez-vous? Ces aubaines ne dureront pas. Les économies du Vendredi fou chez Ameublement SG Dion, 1 rue Gauthier-Nord, Notre-Dame-des-Prairies. C'est seulement une fois par année. Ne manquez pas ça.
Au concert du dimanche à CFNJ, Gérard Lenormand.
Voici les clés de ton bonheur. Il n'attend plus que toi.
Le concert du dimanche matin, 7h à CFNJ.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
16h45, salut Pierre.
Bonjour.
Jour 2 de cette crise au Parti libéral du Québec. Il y a eu point de presse aujourd'hui du chef Pablo Rodriguez. Il y a l'ex-directrice de cabinet de Marois Risky qui affirme avoir été congédiée injustement. Bref, il y a pas mal de monde qui en parlait aujourd'hui, sauf Marois Risky.
Oui, ça c'était un peu étrange, puis de la même façon que Pablo Rodriguez n'a pas été capable de dire les raisons qui avaient amené Marois Risky à congédier Geneviève Hinze, qui a l'air manifestement être une proche de Pablo Rodriguez. Il a même parlé pendant la conférence de presse là, qu'elle devait être extrêmement affectée par son congédiement. Alors, il y a une zone d'ombre encore énorme sur toute cette histoire-là. À commencer par ça. Ensuite, on ajoute les textos qui proviendraient d'une députée libérale et d'une députée de CAQIS et qui ont démenti les deux de façon véhémente qu'ils n'avaient pas été mêlés à ça. Alors, Pablo a fait ce qu'il a pu là aujourd'hui, mais les dommages vont quand même être permanents. Alors, de toute façon, peu importe ce qui arrive, c'est le Parti libéral et Pablo Rodriguez qui vont en payer les frais là pour... au moins à court et moyen terme.
N'oublions pas que Marois Risky s'est pointé hier au bureau de Pablo Rodriguez avec son avocat. Si elle se pointe avec son avocat, c'est qu'il y a un litige qui pourrait en fait être assez lourd. On sait pas, est-ce que ça pourrait pas par hasard, je lance ça comme ça là, est-ce que ça pourrait pas être une histoire de harcèlement psychologique par exemple?
Ben ça pourrait être ça, on le sait pas. Alors il va falloir éventuellement que elle et Pablo Rodriguez nous fassent savoir quelles sont les raisons qui l'ont amené à la congédie et en quoi c'était pas recevable pour Pablo Rodriguez. Pour le moment, on ne sait pas. Ça peut être aussi, d'après ce qu'on peut voir, là, la façon dont la conférence de presse s'est passée aujourd'hui. Il semblerait qu'il y aurait eu des fonds de l'Assemblée nationale qui ont été utilisés pour les tournées de Pablo Rodriguez.
Oui, il y a déjà une rumeur là, qui circulait là-dessus demain. On a parlé hier à l'antenne de cette rumeur-là qui persiste aujourd'hui. Mais quand je
viens... Mais là-dessus, Pablo a été très clair. Il n'a pas utilisé l'argent de l'Assemblée nationale. C'est le parti qui a payé ses tournées. Si c'était ça que... Marois Risky reprochait à la chef de cabinet, mais il faudrait le savoir là, parce que ça contredirait ce que Pablo Rodriguez a dit.
Mais justement, c'est que si Marois Risky a rencontré Geneviève Hinze pour la chef de cabinet pour la congédier, c'est qu'elle a dû lui donner une raison. Il n'a pas simplement remis son 4% en disant c'est fini là.
Mais elle n'avait pas parlé non plus à Pablo Rodriguez. Alors tout ça est assez nébuleux là. Et quoi espérer? Moi, je pense que dans les prochaines heures, là, une des premières choses que devrait faire Pablo Rodriguez, c'est de nous faire connaître les raisons qui ont amené Marois Risky à congédier Geneviève Hinze et en quoi c'était pas, selon lui, recevable. Pour le moment, il n'a pas l'air même lui-même de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors ça, il est perdant d'une façon ou d'une autre, parce que soit que tout ça n'est que un show de boucan, et donc c'est la preuve qu'il n'est pas en contrôle du parti libéral, ou soit il y a du fondement à ces rumeurs-là, et donc là, ça veut dire que le Parti libéral est retombé dans ses bonnes vieilles ornières corruption, et puis alors, dans tous les cas de figure, à court terme et moyen terme, le Parti libéral et Pablo Rodriguez sont dans l'eau chaude.
Ah, ils sont
peut-être qu'à long terme,
oui.
une fois que l'enquête indépendante qu'il a demandé d'une firme extérieure sera terminé. Peut-être qu'il y aura des éléments pour le disculper, lui et le parti. Mais pour le moment, toute cette zone-là, c'est des allégations qui n'est pas capable lui-même de réfuter. Et donc, ça entretient le suspense et le supplice de la goutte.
Faut pas oublier, Pierre, qu'on est à presque, 10-11 mois là, d'une campagne électorale. S'il y a enquête externe, ça risque d'être très long. On va toujours attendre les résultats de cette enquête-là. Ça risque de traîner en long et en large. Ça, il va falloir que, aussi, Marois Risky s'adresse aux médias, qu'elle fasse au moins, un point de presse demain, voire même le plus tôt possible, là.
Ben théoriquement, ils devaient se parler aujourd'hui même, même hier matin, mardi, ils devaient se rencontrer Et puis, ils se sont rencontrés, mais il n'y a rien qui a sorti de là. Aujourd'hui, ils devaient se rencontrer aussi à nouveau. Ils n'ont pas pu se rencontrer. Et Pablo Rodriguez, pendant la conférence de presse, a dit que c'est parce qu'il avait été trop occupé à préparer la conférence de presse. Alors, je suis d'accord avec toi là que à court terme, il y a des choses qui peuvent être faites rapidement. Mais moi, je pense que l'enquête externe doit se faire rapidement aussi. Là. Je verrais ça pas des semaines, là. Peut-être quelques semaines, mais pas des mois, ça
et
c'est sûr.
Le bureau d'enquête du Journal de Montréal, là, qui a lancé ça, ces textos ce matin, qui a publié les textos ce matin, il est allé chercher à quelque part ces textos-là. Ces textos-là existent. Il y a des noms derrière ces textos-là.
Sûrement, il y a des numéros de téléphone, il y a plein de choses, mais ça, le Journal de Montréal l'a pas fait connaître. Les personnes qui sont visées par ces prétendus textos ont démenti. Alors, il y a un peu aussi du côté du Journal de Montréal... Le fardeau de la preuve, là. Je comprends qu'au plan journalistique, on ne dévoile jamais ses sources, mais si ces dames-là décident de poursuivre le Journal de Montréal, ben il va y avoir sûrement des rebondissements en cours.
On va suivre ça, Pierre, parce que...
Mais encore une fois, c'est le Parti libéral et Pablo Rodriguez qui sont les grands perdants de la journée. D'ailleurs, on a pu le voir par la réaction des partis d'opposition.
Puis là,
des autres partis d'opposition.
Je disais même un peu plus tôt, Pierre, qu'il y a certainement des sondages qui s'en viennent la semaine prochaine et ça risque de faire très mal au Parti libéral, au profit de qui? Peut-être du Parti québécois, mais surtout aussi de la CAQ. Peut-être ça va aider la CAQ, peut-être.
Non, je pense que ça va peut-être aider plus le Parti conservateur. Mais on verra.
Les conservateurs!
T'as vu d'ailleurs, Éric Duhaime
veut avoir une enquête de l'UPAC.
Bon, ben écoute, on se reparle la semaine prochaine.
Salut Pierre.
Bye.
J'en profite pour saluer et remercier nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui. Pierre Jubinville, François Morin-Régent-Turgeon ainsi que Pierre Paquette que vous venez d'entendre. Nicolas Bellemare sera là pour vous présenter le 5 à 7 trad de CFNJ. Entre-temps, manquez pas la vie dans la Naudière avec Hugo Valiquette. Nous, on se donne rendez-vous demain. On sera là à 16h pour un autre La Naudière PM.